Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Vous entendez ici, amis auditrices et auditeurs, l'avant-dernière émission de notre histoire commencée sur cette antenne il y a 3 ans. J'en profite pour vous remercier chaleureusement pour les centaines de messages que nous avons reçus par mail et sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'arrêt de l'émission. Ils prouvent votre attachement à notre proposition et révèlent l'importance de disposer d'une information éclairée sur les enjeux complexes lié au numérique. Et c'est le thème que nous avons choisi pour ce soir. Comment transmettre et bien informer sur cette thématique? Évidemment, par humilité, nous n'allons pas parler que de nous, mais des autres, des acteurs qui font ce travail au quotidien et qui donnent aux citoyens les outils pour comprendre le monde connecté qui nous entoure. Nous verrons par exemple en quoi la formation des enseignants est indispensable pour prodiguer une éducation aux médias et au numérique, comment se met-elle en place et quels sont les obstacles qu'elle doit déjouer. Nous verrons également comment le monde de la recherche pénètre le champ médiatique. Comment permettre la nuance en évitant le sensationnalisme? Enfin, quel rôle joue une association comme la Quadrature du Net qui, sur le terrain, alerte l'opinion publique sur les dérives de nouvelles technologies qui bien souvent nous dépassent? Un vaste programme et 4 invités appelés ce soir à y répondre. Avec nous en studio, Félix Tréguer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et membre de la Quadrature du Net. Vous êtes également l'auteur d'une contre-histoire d'Internet dont la nouvelle édition est parue l'an dernier chez Agone. Et vous pourrez évoquer les actions de l'association pour tenter de lever l'opacité sur les sujets du numérique et vous appeler à politiser ces questions pour mieux mobiliser la population. À vos côtés, Maryse Broustaille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire géographie au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie et formatrice académique en éducation aux médias et à l'information dans l'Académie de Versailles. Vous nous direz comment vous formez les jeunes et les professeurs aux enjeux du numérique, loin des fantasmes tenaces et des craintes aussi légitimes. À distance, Dominique Boulier, bonsoir. Et voilà, j'entends déjà résonner la voix de Dominique qui nous dit bonsoir par l'esprit. Vous êtes professeur des universités en sociologie du numérique à Sciences Po. Votre dernier ouvrage, Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales, est à retrouver aux éditions Armand Collin. Vous êtes bien là, Dominique ?
Oui, je suis là, vous m'entendez ?
Très bien, et vous nous direz comment éviter d'être parasité par ce que vous nommez le réchauffement médiatique qui participe à un traitement caricatural autour de ces sujets. Enfin, Marie Turcan complète ce plateau. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef chez Numérama et une habituée de l'émission car vous y tenez une chronique. Depuis les débuts, vous reviendrez sur l'histoire et l'évolution de l'écosystème médiatique français consacré à la technologie. Au programme également, une chronique de votre comparse, Marcus Dupont-Bénard, journaliste lui aussi chez Numérama. Marcus nous dira pourquoi il faut lire la science-fiction pour comprendre au présent la révolution technologique. Quant à Juliette Deveau, elle nous livrera, comme chaque semaine, les nouvelles d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute encore à la radio et en podcast pour la vie sur l'application Radio France, une émission qui se regarde également sur la chaîne Twitch de France Culture. Allez, c'est parti.
Alors bien sûr, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont peur des machines, qui un jour deviendront des robots super-humains et qui vont conquérir le monde et toutes sortes d'autres histoires à la science-fiction.
Les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour. Même plus besoin de mettre un franc dans la fente. Alors fini le rôle de la télévision à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur? Sans doute, d'autant que les innovations techniques n'en sont qu'à leur début.
Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen.
11 000 ateliers informatiques comme celui-ci, équipés de 6 micro-ordinateurs de type familial, reliés en réseau à un élément central semi-professionnel. C'est la logistique du plan Fabius de la micro, pour qui l'informatique est un élément essentiel à la modernisation du pays.
Internet, qu'est-ce que c'est? Une de ces autoroutes de l'information dont on vous a beaucoup parlé, mais dans lesquelles on peut avoir accès au maximum de bases de données mondiales, et ce, très facilement.
Près de 500 personnes, plus tout un réseau d'informateurs dans le monde entier pour guetter le passage à l'an 2000 et le bug. Une véritable bombe à retardement qui pourrait s'être levée au cœur des systèmes informatiques.
On parle de l'intelligence artificielle qui s'invite partout, décidément.
Alors très concrètement, c'est un chatbot. Il pourrait prendre la place des humains. Alors à l'avenir, serons-nous tous au chômage ou bien de nouveaux métiers vont-ils émerger? C'est toute la question.
Et voilà un petit florilège du traitement médiatique autour des nouvelles technologies et du numérique qui va de 1972 à aujourd'hui 2024 avec évidemment l'intelligence artificielle générative. On va commencer par l'une des journalistes de ce plateau, Marie Turcan. Vous qui travaillez donc dans la presse tech depuis maintenant plus de 10 ans, comment vous le percevez ce traitement médiatique ?
C'est assez frappant quand on écoute là ce qu'on a entendu, c'est que on sent une pointe d'inquiétude, mais on sent surtout des gens qui s'émerveillent un petit peu quand même. Il y a l'infinité des possibles, toutes les données à portée de main. Aujourd'hui, si on parle de toutes les données à portée de main, on aurait plutôt tendance à se dire, oulala, c'est toutes les données à portée de main. Mmh. On pense tout de suite aux fuites de données, on pense au manque finalement de voilà, cette naïveté qu'on a eu à un moment à faire confiance à ces géants de la tech. Et moi, ce que j'ai remarqué, donc ça fait une douzaine d'années que je travaille dans ce milieu-là, c'est ce changement de paradigme de, on est passé d'un moment où le web, c'était quand même vraiment chouette, on s'inquiétait quand même vraiment moins. Alors évidemment qu'il y avait déjà des questionnements, mais il n'y avait pas cette prise de conscience de ce qu'on était en train de donner en échange de ce qu'on recevait. Donc vraiment, on avait à portée de main, vraiment, moi je me souviens, avec AOL, avec Lycos, on disait va chercher, et puis il allait chercher ce brave petit chien. Et maintenant, donc il y a eu le scandale des écoutes de la NSA qui a quand même opéré un basculement.
Avec l'affaire Snowden, évidemment,
avec
en 2013. Snowden,
et puis ensuite, en 2017, Cambridge Analytica, avec donc l'affaire Facebook aussi, on appelle ça un peu comme ça, de prise de connaissance un petit peu de ce qu'on a donné et qu'est-ce qui nous appartient encore en termes de données.
Voilà, je rappelle que vous avez travaillé aux Inrecuptibles et qu'aujourd'hui donc vous êtes chez Numérama. Donc on voit ce glissement entre, on va dire, une forme d'angélisme et de fascination qui était liée au monde du numérique avec l'apparition d'une portée critique qu'on pourra d'ailleurs nuancer pour voir si elle est à la hauteur des enjeux. Dominique Boulier, est-ce que on arrive à sortir finalement de cette opposition qui est parfois stérile entre les technophiles d'un côté et les technophobes de l'autre ? Là, je parle peut-être du paysage médiatique mainstream, grand public, hein, au-delà d'une presse spécialisée.
Écoutez, c'est assez difficile en effet, parce que d'une part, on a toute une pression pour pousser à l'adaptation. Toujours s'adapter. Il y a un livre de Barbara Stiegler qui est très bien pour ça. Il faut s'adapter, qui est un dogme néolibéral aussi. Et puis effectivement, donc dès qu'on commence à émettre des critiques en disant oui, mais on peut s'adapter, certes, mais on peut ne pas s'adapter à tout. On peut aussi choisir, on peut aussi justement faire plier la technique, adapter la technique elle-même, etc. Alors là, on bascule dans le camp des technophobes. Donc vous voyez que ça crée un débat qui est extrêmement polarisé dès le départ, avec cette thématique que moi j'avais identifiée dès 1985, vous voyez, comme je suis un vieux du milieu, j'avais écrit un papier qui s'appelait effectivement « La tyrannie du retard ». Eh bien c'était ça, c'est-à-dire que dès le départ, si vous émettiez une réserve ou si vous disiez qu'on pourrait peut-être faire autrement ou qu'il faudrait peut-être prendre le temps d'examiner ceci, cela, eh bien vous étiez critiqué parce qu'il y avait cette tyrannie du retard pour le business, pour l'innovation, pour elle-même, etc. Et maintenant, pour la souveraineté aussi, etc. Tout est bon, de ce point de vue-là. Et de fait, à ce moment-là, on considère que cette évolution technologique devient une fatalité. Donc, il n'y a plus de sens historique, de sens critique, etc. Et ça devient très difficile. Et il faut bien comprendre à quel point ça pénètre l'esprit des dirigeants, des gouvernants, dans les entreprises comme dans les gouvernements, mais aussi dans les médias. On dit finalement, il faut continuer, quoi. La machine ne peut pas s'arrêter de tourner. Il faut sans arrêt soutenir l'innovation. On ne peut pas avoir un avis un peu fin ou subtil. Et face à ça, de toute façon, si vous en avez un, vous basculez totalement dans le camp des technophobes qui, eux aussi, prolifèrent quand ils deviennent un peu catastrophistes. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis lorsqu'on est catalogué comme technophobe, on est un peu stigmatisé, on est mis sur le coin et peut-être que la parole devient moins audible. En miroir de cette tyrannie du retard, on voit qu'il y a toujours cette conception du progrès qui est vue comme forcément positive. Le progrès ne peut que nous amener quelque chose de bien, nous offrir justement un monde meilleur. Félix Traeger, vous qui travaillez justement sur ces nouvelles technologies qui sont sans arrêt déployées, on peut notamment parler de des technologies de surveillance à chaque fois qui sont avancées soit par les politiciens, soit par les acteurs du marché comme allant dans le bon sens pour celle de préserver notre sécurité en l'occurrence. Comment vous parvenez justement à faire émerger un esprit critique lorsque la voix dominante est toujours celle que le progrès va dans le bon sens et est là pour faire en sorte que la société se comporte mieux ou que la société aille mieux ?
Le parti pris d'une association comme la Quadrature du Net, c'est de faire une analyse politique de ces évolutions, de ces développements à partir des valeurs démocratiques, des valeurs des droits humains. Et je pense que c'est ce qui manque aussi pour créer des repères, en fait, dans ce paysage médiatique et dans la manière dont on discourse sur les technologies numériques. C'est de créer, enfin, de produire, en fait, une analyse ancrée politiquement. Après, il y a clairement ce phénomène de la disruption qui vaut aussi sur la manière dont les médias le discours médiatique se construit autour du numérique, où on est souvent, on a coutume de dire que le droit est en retard sur la technologie, qu'on a du mal à le réguler. En fait, cette stratégie de la disruption, elle vaut aussi bien pour le débat public, et c'est ce que soulignait Dominique Boulier, cette incapacité collective qu'on a à vraiment se donner prise pour faire sens de ces évolutions technologiques, peut-être décélérer le rythme de l'innovation pour faire sens et discuter et choisir collectivement la trajectoire de l'informatisation qui nous paraîtrait souhaitable.
Pour vous, c'est pas assez politisé. Vous dire ces questions, on les politise pas suffisamment. Et c'est vrai que dans ce que je comprends de ce que vous nous dites, il y a un peu cette sensation de tomber dans une sorte de fatalisme, c'est-à-dire finalement, c'est la technologie va trop vite, je la comprends pas, elle me dépasse. Et donc, je ne l'interroge pas suffisamment.
Je pense que c'était assez palpable dans les extraits qu'on a entendus, où on essaye toujours de faire sens d'un phénomène très nouveau, et c'est vrai aussi aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, à partir de chaînes de pensée, de paradigmes antérieurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'en réalité, on a aussi tendance à exagérer les moments de rupture dans cette histoire de l'informatisation. Bon, l'IA, à plein d'égards, l'intelligence artificielle, c'est la prolongation de plein de phénomènes et de problèmes déjà posés par l'informatique depuis 40 ans.
Effectivement, et on a consacré beaucoup d'émissions dans Le Meilleur des Mondes pour revenir justement aux sources de l'intelligence artificielle, et puis on arrive vite dans les années 50. On voit que c'est pas forcément de prime jeunesse. Marie Broustaille, justement, cette ambiance, on va dire, médiatique, cette fascination ou ce discours parfois un peu caricatural, dans quelle mesure il peut imprégner peut-être la communauté enseignante, hein. Je rappelle que vous êtes l'une de ces formatrices où vous allez donner les outils à des enseignants qui vont eux-mêmes faire de l'éducation aux médias et à l'information. Est-ce que vous la ressentez? Vous sentez justement la prégnance de ce discours-là autour de la communauté enseignante?
Alors, si on reprend l'exemple de l'intelligence artificielle, oui, clairement, je trouve que depuis, en gros, ChatGPT, c'est vraiment ça, la rupture chez nous, il y a eu quelque chose qui s'est passé de l'ordre de l'emballement et de la panique. D'abord en se disant, mais ça, c'est un super outil de triche. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux élèves qui vont l'utiliser comme un outil de triche? Et de fait, effectivement, les élèves peuvent l'utiliser comme un outil pour réaliser leurs devoirs. Et après, il va falloir pour nous déconstruire cette image un peu anxiogène de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec et surtout, est-ce que ça a du sens de l'utiliser? Par exemple, en fait, l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée soit pour accompagner les enseignants dans leur tâche, donc créer un quiz, ce genre de choses. Et après, il y a l'analyse de ce qu'elle produit. Et je trouve que ce qui peut être intéressant dans la formation des enseignants, c'est justement de prendre un petit peu de temps pour se poser, pour voir qu'est-ce qu'on peut produire avec de l'intelligence artificielle, notamment générative. À quoi les élèves sont exposés à partir de leur réalité? Qu'est-ce que les élèves, enfin, comment est-ce qu'eux, ils sont immergés dans l'intelligence artificielle? Et ensuite, se demander, OK, est-ce qu'on peut exercer notre esprit critique? Quelles sont les données qui sont utilisées pour ce type de création, de production? Est-ce qu'on a des informations sur les sources? Donc, c'est quelque chose qui est arrivé. Il y a un emballement qui arrive. Donc là, en fait, toute l'année 2023-2024, je parle de deux années parce qu'on a une année scolaire, il y a eu énormément de demandes de formation sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, qui arrivent petit à petit. Mais il me faut du temps aussi pour se dire, OK, si on l'utilise en classe, quels sont les prérequis? Et par exemple, la question des données et est-ce que je peux utiliser ChatGPT, faire créer un compte à un élève et qui donne ses données, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on se demande, il faut qu'on se pose des questions éthiques aussi.
Dominique Boulier, juste sur ChatGPT, vous avez réagi à l'époque avec une vision assez négative quant au déploiement de son usage, par exemple à Sciences Po.
C'était surtout, il s'agissait d'avoir un principe de précaution, c'est-à-dire quand on qui disait effectivement on va l'interdire, mais on va l'interdire effectivement pour les examens, sans qu'il, dans la mesure où il y avait absolument aucun cadre qui permettait d'éviter ce qu'on peut appeler du dopage. Si on dit que dans les courses cyclistes et dans tout le reste du sport on autorise le dopage, eh ben allons-y, mais voyons les conséquences de tout cela. Or on voit bien que c'est un très long travail qui a été mis en place. De la même façon, comme on vit l'éducation malheureusement peut-être comme une compétition, ben à ce moment-là il faut revoir totalement notre façon de faire si on accepte le dopage. Or, bien entendu qu'il y a une façon de faire des choses avec ces technologies. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas obligé de réagir sous la pression, sous une pression commerciale, par une firme qui agit comme le dealer et qui distribue de la bonne, et à ce moment-là, en espérant que les gens deviennent accros, et qui après va les faire payer, c'est ce qui se passe maintenant. Si vous voulez, c'est quelque chose qui ne peut pas être au centre ou au cœur d'une politique éducative. Nous avons des questions en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, nous avons beaucoup de questions et de soucis et de problèmes à régler. Je pense notamment à la façon de faire coopérer les gens, à apprendre les étudiants, de leur faire apprendre à explorer des sujets, etc. Et d'examiner les sources, etc. est-ce que c'était ce que ChatGPT nous proposait comme ça? Non, pas du tout. Quelquefois, c'était même l'inverse, puisqu'il était totalement incapable d'examiner les sources, et encore mieux, il en inventait. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un minimum de principes de précaution. Mais on a tous couru derrière. Bon, maintenant, on se rend compte que oui, l'innovation de l'époque, le ChatGPT 3.0, 3.0, 3.5, il a déjà été totalement changé. Donc, c'est encore autre chose. Donc, si on veut à chaque fois adapter nos étudiants à une innovation à l'instant T, on risque de perdre la vision à long terme, qui est une obligation éducative, qui comporte une dimension aussi morale, responsable pour qu'est-ce qui vraiment aide à apprendre, si vous voulez. Et mes collègues de l'EPFL avec qui j'ai travaillé sur ces questions-là le disaient bien, si vous voulez. Ah, effectivement, ils travaillent plus vite, hein, mais ils apprennent moins. Le bilan qu'ils avaient fait comparatif était celui-là. Donc, vous voyez, c'est les conséquences de tout cela qui pourraient être traitées avant, mais en réalité, on est tellement sous pression commerciale qu'effectivement, il faut battre pour devenir le premier entrant. Effectivement, tout est bon pour entrer là-dessus. Cela dit, après, on va la réinterpréter, la prendre dans un nouveau contexte et stratégique. Oui, tout à fait possible.
Marie Turcan, vous souhaitez réagir?
Oui, parce que justement, vous dites on a tous couru. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité médiatique derrière. Je prendrai mon rôle du coup de journaliste qui a été très exposé à ça. Nous, on le voit depuis une dizaine d'années, la manière dont on couvre les conférences, je dirais, de ces big tech, comme on les appelle parfois, que ce soit Apple, Google. On sent qu'il y a toujours cette course à l'innovation et à la performance de l'innovation aussi. Donc il faut non seulement innover, mais il faut montrer qu'on innove. Et là, avec l'IA, il s'est passé c'est quelque chose de très différent qu'on n'avait pas vu auparavant, qui était que vraiment même les entreprises comme Apple, qui au début étaient quand même connues pour ne pas suivre trop le train de la hype, qui se sont trouvées eux aussi à devoir communiquer très majoritairement sur des innovations de l'IA, parce que du coup le mot magique c'était IA, alors il se trouve qu'en plus eux ils n'utilisent pas ce mot pour être un peu en décalage, et du coup les journalistes tech se sont aussi retrouvés complètement submergés par cette innovation-là, à se dire comment est-ce qu'on le traite. Comment prendre la mesure, parce qu'en même temps il y avait aussi l'utilisation de l'IA par les journalistes, mais de l'autre côté il y avait aussi décortiquer un peu le discours, parce que quand OpenAI a sorti ChatGPT, il y a eu ce côté un peu révolutionnaire, mais ensuite derrière Google sort Bard, ensuite qui devient Gemini, ensuite Apple sort son propre Apple Intelligence, et dans ce cas-là comment est-ce que je pense que on a manqué de recul sur ce que ça pouvait vraiment être. Parce que parfois, on a tendance à dire, on parle d'IA, mais derrière, c'est un tableur Excel.
Ouais, c'est ça. Mais c'est compliqué, justement, quand on est un média comme le vôtre. Et puis, on le sait aussi dans Le Meilleur des Mondes. Après, on est comme notre temporalité hebdomadaire nous permet aussi, par nature, de prendre plus de recul que lorsqu'on est un quotidien comme le vôtre, puisque vous êtes sur Internet et tous les jours, vous publiez des articles. Comment on arrive, justement, à résister un peu à ce narratif commercial de la révolution permanente et de la peur de rater quelque chose, hein. On parle beaucoup du FOMO à plein d'égards, FOMO des investisseurs qui veulent pas rater le prochain bon plan, mais aussi des journalistes en se disant il faut couvrir ce truc. Alors on a l'habitude, on nous vend une révolution toutes les 3 secondes, mais malgré tout, il faut savoir résister.
Oui, je pense qu'il y a une vraie idéologie derrière de l'innovation. J'ai eu beaucoup de discussions autour de l'Apple Vision Pro, le casque de la réalité mixte sorti par Apple récemment, parce qu'il n'y a pas de besoin de société derrière, parce qu'il n'y a pas de projet de société derrière. Et du coup, j'ai parlé à beaucoup de journalistes qui défendaient un peu ce produit en disant mais en fait il faut innover, il faut innover absolument, et on verra derrière. C'est comme ça que ça a toujours marché. Sauf qu'en fait il y a zéro
l'offre qui crée la demande en fait.
Exactement. Hein. Et c'est en effet comme ça que nos innovations tech se sont construites ces 20 dernières années. Néanmoins, aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. On est en réchauffement climatique. On a des questionnements sur qu'est-ce que ça veut dire de lever 600 millions de dollars par mois. Donc, il y a des vraies réflexions à avoir qu'on n'a toujours pas. Et du coup, on mériterait de se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on innove? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'innover plus calme, plus responsable? Mais ça voudrait dire vraiment remettre en question
toute une idéologie. C'est un changement de paradigme. Vous voulez, c'était arrivé à Félix Réguer?
C'est très juste. Et typiquement, sur la question de l'IA générative, on s'est retrouvé un petit peu coincé entre ces discours un peu propagandaires de l'industrie de la tech mettant en exergue les nouvelles promesses liées à ces innovations, ces nouvelles technologies qui étaient mises sur le marché, et en même temps on était pris en sandwich où en fait la critique était incarnée par les industriels de la tech avec la menace existentielle
des robots, Musk, par exemple.
Exactement, les appels même à des moratoires, ce qui, qui paraît être une position très technocritique et très radicale, et qui venait de personnalités très puissantes dans le milieu de la tech, proches de l'extrême droite, droite qui n'avaient pas du tout intérêt en fait à mettre le holà sur l'innovation ni à
sauf
à...
si leurs propres outils n'étaient pas encore en place pour les concurrencer.
Sauf à être dans des stratégies industrielles et c'était le cas en l'espèce. Mais donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure Marie sur le fait que effectivement le discours dominant et disons l'emphase qui était propre au discours médiatique dominant ou même militant et politique de manière générale dans les années 90 jusqu'à 2010-2013 disons, on est passé à un autre paradigme. Mais en même temps, je trouve que moi je reste souvent insatisfait en fait de la manière dont cette critique est portée et rendue visible dans les médias.
Maryse Broustaille, peut-être une question dans l'ordre technique, puisque Marie Turcan parlait tout à l'heure d'Apple. Comment les GAFAM pénètrent aussi le champ de l'éducation? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des outils aussi qui sont, je crois, déployés. À travers les outils, c'est pas Félix Rayer qui va me contredire, il y a forcément une politique qui est derrière, une idéologie qui accompagne toujours ces outils. Comment vous le voyez ça?
Alors déjà, c'est très très différent selon les territoires parce que la dotation en matériel numérique, on va dire, elle est liée aux collectivités et d'une collectivité à l'autre, c'est des choix qui sont très 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 différents. Donc là, il y a des très fortes inégalités clairement hein, dans toute la France par rapport à cet équipement.
En fait, ma question, c'est est-ce que c'est un problème? Parce que là, par exemple, Félix Rayer nous dit ça devient compliqué quand l'incarnation même de la critique est portée comme Elon Musk. Je pourrais prendre à peu près la poursuite de cette question en disant, lorsqu'on fait l'éducation numérique et aux médias, donc forcément on est là pour éveiller l'esprit critique, vous l'avez dit, et quand elle est accompagnée et peut-être portée par les outils, peut-être même par un discours par les GAFAM, est-ce que c'est pas non plus un problème?
Ça peut l'être. Je vais prendre un exemple assez concret, c'est les tablettes en établissement qu'on a fournies à des élèves, en fait, assez par dotation, ce qu'on appelle des flottes, c'est-à-dire voilà, on a doté des classes entières de tablettes, et peut-être un peu vite, donc je donne pas la marque pour le coup, mais peut-être un peu vite dans le sens où ça s'est fait assez rapidement la dotation et la formation et des enseignants et des élèves s'est faite ensuite, et ce qui ne s'est pas beaucoup fait, c'est la formation des parents, et il faut vraiment pas les oublier, parce que là on a tendance à penser que c'est vraiment à l'école qu'il faut travailler ces compétences-là, donc c'est certainement important effectivement, mais je pense que c'est quelque chose qui doit se faire collectivement et aussi avec les parents, et que cette question de l'équipement qui est particulièrement inégalitaire et de l'usage de l'outil, elle doit se faire aussi en parentalité numérique, en coéducation. Ça ne peut pas être seulement l'éducation nationale qui va résoudre ce genre de choses.
Une question, Dominique Boulier, puisqu'on parle de la manière dont la critique s'incarne. Elle s'incarne aussi par des chercheurs, par des jeunes chercheurs. Alors, dans le meilleur des mondes, pendant 3 ans, on a eu la chance et le plaisir d'en recevoir. On a l'impression qu'il y a quand même une génération, une jeune génération de chercheurs vives qui embrassent justement ces sujets à bras-le-corps. Mais de quelle manière arrive-t-il ou pas à pénétrer l'espace médiatique?
Alors c'est un problème parce que de fait la recherche nécessairement, alors je parle des recherches en sciences sociales principalement parce que de fait elles ont besoin de temps pour voir ce qui est réellement mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la réactivité, donner des opinions ou sonder justement le public ou bien encore mieux se demander des prédictions, etc. Si on veut réellement observer ce que les gens font avec les technologies et pour comprendre un peu mieux comment elles vont se transformer elles-mêmes, même une fois que l'innovation est faite, ça n'arrête pas de se transformer et d'être approprié. Et bien pour ça, il faut du temps. Et donc si vous faites des enquêtes, ben voilà, vous pouvez pas réagir et il vous faut 2 ans pour publier quelque chose et encore, je suis très optimiste quelquefois, mais en attendant, évidemment, les médias sont eux dans une autre temporalité qui est effectivement celle de nous dire non seulement ce qu'il faut en penser, ce que ça va devenir tant qu'à faire, et puis à partir de là d'avoir un avis général, alors que les choses sont très diverses quelquefois, il y a des façons de faire qui vont être très très différentes. Et donc les chercheurs sont de fait, malgré la créativité, parce que maintenant, comme vous le disiez, il y a effectivement tout un courant de chercheurs qui font notamment la sociologie des algorithmes, etc., qui rentrent dans la technique, c'est-à-dire on n'est plus dans le commentaire ou dans les discours généraux. C'est ça qui devient très intéressant, ce qu'on appelle les Science and Technology Studies. Eh bien, tout cela, elles deviennent très pertinentes pour aider à comprendre comment, au moment même de la conception, au moment de leur utilisation, on doit comprendre l'articulation, le couplage de hommes techniques, si vous voulez, qui devient très intéressant. Mais là, ça, c'est quelque chose qui devient trop subtil et trop long en attente, quoi. Et là, on est court-circuité, de fait.
Alors, on est court-circuité, et justement, les médias, on le sait bien, doivent combler le vide, les formats, les cases qui leur sont consacrés. Et comme on n'a pas le temps d'attendre justement que tel chercheur passe 3 années pour publier une ressource, qui d'ailleurs parfois, lorsque cette ressource est publiée, on est déjà passé à la révolution suivante, je mets bien sûr entre guillemets le mot révolution, et bien peut-être que les médias ont tendance à inviter des bons clients, des essayistes, des philosophes, des gens, des personnes qui ne comprennent pas forcément ce dont elles parlent, Dominique Boulier.
C'est un peu le problème. Alors, c'est une tendance assez française, c'est vrai, mais qui valorise des essais. Et donc moi, j'ai été obligé de dénoncer quelquefois un certain nombre d'abus, comment dire, de positions très générales, très catastrophistes, etc., qui se présentent comme critiques, mais qui en réalité ne rentrent pas dans le détail des techniques. Et à ce moment-là, on reproduit un certain nombre de stéréotypes et on évite, par exemple, de rentrer dans les détails non seulement techniques, mais aussi des modèles économiques qu'il y a derrière. Parce que toutes ces technologies, toute l'IA en particulier, on comprendrait rien si on ne voyait pas comment ça servait à mobiliser des investisseurs et des investissements considérables, qu'il faut d'ailleurs avec les types de technologies adoptées, qui coûtent très très cher. Et à partir de ce moment-là, si on ne comprend pas tous ces systèmes-là, on doit être capable de nommer qui est responsable de ces choix, d'une part, et de pouvoir proposer et montrer du doigt aussi ceux qui peuvent faire autrement, ceux qui essayent de faire autrement. Mais ça, non, alors là, on dit des généralités, et là, ça passe très très bien, et on a quelquefois des débats qui vont être plutôt du genre philosophico-prophétique, si vous voulez, mais en réalité avec des gens qui ne comprennent strictement rien à la technologie, ça c'est très clair. Et là, ça devient très très énervant pour ceux qui sont du domaine. Moi, j'ai plein de collègues dans les data science qui me disent aussi, mais tu vas pas laisser dire ça, vous voyez, parce que ça commence à les énerver sérieusement aussi. Et puis, il ne faut pas oublier, en matière de recherche, vous avez quand même aussi des chercheurs, des data science, qui arrivent à faire passer un certain nombre de choses et qui peuvent être aussi embarqués par la logique de l'innovation à tout prix, mais certains autres qui sont capables de montrer comment il y a des choses différentes. Il faut rentrer dans les détails. Je pense par exemple à quelqu'un comme Yann Lequin. Ben, on peut le critiquer sur tout un tas de plans, mais il a changé d'ailleurs, puisque maintenant il prône l'open source, etc. Mais il n'empêche que c'est intéressant de le voir dire que ben non, les Large Language Model, les grands modèles de langage qui sont utilisés par l'IA générative, en réalité, c'est une époque très brève de l'histoire de l'IA, sans doute, et qu'en réalité, on a besoin de faire avec toutes les IA, ce qui n'était pas du tout sa position avant. Donc, vous voyez, on a plein de choses qui nécessitent des experts du domaine aussi, qui adoptent une position plus complexe, plus nuancé et qui mettent en avant le pluralisme des solutions.
Des projets que l'on a. Justement, pour ajouter à la complexité du personnage de Yann Lequin, je rappelle qu'il travaille donc comme cadre du développement et de la recherche dans le groupe Meta, donc Facebook Marie Turcan.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même la grande gueule à la mode maintenant. J'ai notamment autour de moi des hommes qui étaient fans d'Elon Musk il y a quelques années, qui maintenant sont fans de Yann Lequin parce que il parle un peu pareil et puis il les cache. Et alors, je projette pas du tout des idées d'extrême droite sur Yann Lequin, mais faut faire quand même un petit peu attention à cette médiatisation. Et ce que je voulais rajouter du côté média, c'est qu'on a exactement le même souci d'un point de vue journalistique en termes de journalistes spécialisés dans la tech et le numérique. Vous êtes aussi les premiers concernés. On a tendance ces derniers temps à dire que le numérique infuse partout et que du coup, on n'a pas besoin d'avoir des journalistes spécialisés dans ces sujets-là parce que finalement, le numérique est partout. Mais on remarque quand même que on manque d'experts et d'expertes. On manque notamment de femmes journalistes dans la tech. Et je sais que moi, à la base, il y a quelques années, on avait fait un réseau de soutien de journalistes femmes, parce que justement, on se rendait compte aussi qu'en n'étant pas un homme blanc cisgenre, on avait des points de vue différents sur le numérique et on a réussi à faire peut-être comprendre que, et enfin pas nous tout seuls, mais que la tech n'était pas neutre et qu'en fait, on avait besoin aussi d'une diversité de profils spécialisés et experts pour parler du numérique. Et c'est vrai que si ces profils commencent à se diluer, et c'est un peu ce que je remarque quand même, il y a une dizaine d'années, on était quand même assez nombreux journalistes jeunes à comprendre les codes du numérique, à pouvoir enquêter en ligne, à avoir des spécialités. C'est dur de trouver du travail, donc il y en a beaucoup qui ont arrêté. Il y en a qui travaillent pour des marques aujourd'hui. Trouver des postes en rédaction spécialisés dans la tech et le numérique, c'est très rare.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on aurait plutôt tendance à croire que, a priori, comme le numérique est un enjeu de plus en plus important au sein de nos sociétés, il faut de plus en plus de journalistes pour le courir. Vous dites qu'il y a moins de diversité, de pluralité, justement.
Il y a moins de pluralité, je dirais qu'il y a surtout moins de rubriques spécialisées dans les médias. Alors, Le Monde à Pixel, mais Pixel, ça reste le même nombre de journalistes depuis 10 ans. Le Figaro Tech était très bien à un moment et finalement on réduit un peu à peau de chagrin le nombre de journalistes qui en faisaient partie. Les grands médias finalement ont peut-être un journaliste tech et qui doit du coup passer des GAFAM à la cybersécurité en passant par une enquête sur un YouTuber. Enfin, du coup, une seule personne est censée faire tout ça, c'est quasiment impossible. Ça mériterait en effet des énormes pôles et je pense que c'est un peu dommage, c'est même un peu du gâchis parfois de pas développer encore plus ces rubriques.
On ne peut que partager votre avis. Félix Tréguer.
Non, je voulais réagir en soulignant aussi que ce qui me semble manquer, moi, dans le paysage médiatique relatif à la tech, c'est parfois, trop souvent, des approches matérialistes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à comment faire le commentaire des annonces de marché, de certains discours politiques, de grandes annonces et de cette prophétie de l'innovation. Et en fait, une analyse un peu des infrastructures, de leur poids écologique, de ce que ça veut dire, par exemple, d'avoir Microsoft qui annonce 4 milliards d'investissements dans des data centers en France en termes de conflits d'usage sur l'eau, sur l'énergie. Et c'est un travail que font certains et certaines, mais qui globalement est assez peu visible, il me semble, dans...
Ça vous semble encore un impensé, justement, cette question écologique liée au numérique?
Alors, la question écologique, liée au numérique, elle monte, mais à mon avis, elle est encore maltraitée. Le pont entre les questions numériques et le champ de l'écologie politique de manière plus large reste à faire. Et puis surtout, ouais, je contraste un peu le paysage français vis-à-vis de ce que je peux observer, par exemple, aux États-Unis. On voit quand même une jeune génération de journalistes, de chercheurs ou de lanceuses d'alerte issues de la tech. Je pense à Meredith Whitaker ou Timnit Gebru, qui sont des personnes qui connaissent très bien la technique, très bien le monde de la tech. Alors, à la fois les technologies, les idéologies, les personnalités, les entreprises qui tirent l'innovation dans le champ de l'informatique et qui en sont venues à des positions extrêmement critiques et très bien informées et très pertinentes à mon sens et qui me semblent encore manquer dans le champ médiatique et politique français.
Marie Turcan, rapidement justement sur les États-Unis, vous pensez-vous aussi que la presse anglo-saxonne est peut-être plus critique?
En tout cas, on fait un follow-up, on fait le suivi derrière. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de médias qui traitent de la French Tech, par exemple, sous forme de levée de fonds. C'est machin levé 5 millions, machin, levé 10 millions. Très peu, ensuite, font le suivi derrière pour dire qu'est-ce qui a été fait de ces millions, pourquoi est-ce que l'entreprise est en faillite aujourd'hui, où sont les investissements qu'on nous a promis il y a 2-3 ans. Quand on regarde un peu le paysage, même des licornes, donc valorisées à plus d'un milliard.
Champions, justement, français.
25 entreprises françaises, très valorisées par Emmanuel Macron, notamment. Quand on va s'intéresser à ce qui se passe en réalité, il y a quand même des promesses qui ne sont pas tenues derrière. Mais difficile dans cet écosystème tech de ne pas se réjouir. Donc là, aujourd'hui, c'est Mistral AI, l'entreprise créée par Xavier Niel, notamment, sur l'IA, qui lève, mais vraiment 600 millions d'euros.
Je sais pas s'il a été créé, en tout cas il est investisseur.
Fondé, pardon. Ouais, ouais. Co-fondé notamment aussi avec Cédrico,
qui était l'ancien justement ministre chargé du numérique.
C'est juste que ces montants-là nous semblent absurdes à force de les répéter. On les conteste pas et surtout on va pas assez chercher ensuite ce qui s'est passé avec ces millions.
Voilà, donc toujours ne pas être aveuglé par la puissance du présent, toujours prometteur et peut-être regarder, suivre les dossiers et se projeter dans l'avenir. Tiens, l'avenir, c'est le titre de la chanson qui va arriver. Albin de la Simone dans Le Meilleur des Mondes.
France Culture, Le Meilleur des Mondes, François Saltiel.
Aujourd'hui déjà, on ne parle pas trop, on évoque, on tourne autour du pot, on évite, on n'a pas les mots. Aujourd'hui déjà, on se joue du violon, on dit oui pour ne pas dire non, on sourit, mais l'œil en dit long. Sera comment l'avenir? Quoi sera mieux, quoi sera pire? Sera comment l'avenir qui nous attire? Aujourd'hui déjà, on ne touche pas, ça casse, on prend pas dans les bras, on embrasse les mains derrière le dos. Aujourd'hui déjà, on ne voit ni loin, ni bien, ni beau, alors on tend les mains, on agite un drapeau. Sera comment l'avenir? Quoi sera mieux, quoi sera pire? Sera comment l'avenir qui sera dire? Sera comment l'avenir? Quoi sera mieux, quoi sera pire? Sera comment l'avenir qui nous attire? Aujourd'hui je sais, je prédis, rien n'est impossible, je le sais, même le passé est imprévisible.
Avenir, Albin de la Simone, qu'est-ce qui va nous réserver cet avenir? C'est toute la question. Autant on n'a pas trop de visibilité sur le long terme, mais à court terme, je suis certain que Juliette Deveau va arriver dans ce studio. Bonsoir Juliette.
Oui, je suis là.
Et ben voilà, et parfois l'avenir tient ses promesses. J'espère qu'il en sera de même pour vos nouvelles.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Oui, c'est en lisant les commentaires de certains auditeurs déçus sur les réseaux sociaux que je me suis dit qu'il serait opportun de vous donner, avant de partir, nos bonnes adresses pour bien s'informer sur nos sujets. Et les ressources ne manquent pas. J'ai découvert ces trois dernières années tout un écosystème de blogueurs et de chercheurs officiant dans l'ombre, loin de la lumière des plateaux télévisés, qui s'attachent à documenter le numérique à travers des analyses riches et rigoureuses qu'ils partagent ensuite en accès libre sur Internet. C'est le cas de deux chercheurs que l'on a eu la chance de recevoir sur ce plateau. Irénée Regnault, qui publie très régulièrement sur des analyses étayées sur son blog « Mais où va le web ?» depuis 2014, ou encore Anne Cordier, qui partage ses analyses toujours pertinentes sur les jeunes et l'éducation au numérique sur son blog intitulé « Cahier de recherche ». Si on a du temps, on peut aussi faire un tour sur le blog de l'auteur Olivier Herched, Affordance Info, ou se rendre sur le site du permaculteur de Pixel, au passage joli nom, pour profiter de ses recensions médiatiques.
Et je profite de votre première nouvelle pour vous dire qu'effectivement, ces gens-là sont passés dans le studio du meilleur des mondes, et bien sûr que ces émissions sont réécoutables en podcast. Et si on veut suivre l'actualité, Juliette, où est-ce qu'on va?
On peut suivre aussi des newsletters pour suivre l'actualité au quotidien des grandes entreprises de la tech à l'international. Il y a Café Tech, une newsletter gratuite éditée par l'ancien correspondant du Monde à San Francisco, Jérôme Marin, qui propose une analyse rigoureuse et factuelle des dernières actualités qui ont agité le secteur. Et pour avoir un éclairage plus critique de l'actualité du numérique, je ne peux que recommander la newsletter de Lucie Ronfaux, publiée par Numérama, qui chaque mercredi propose une analyse féministe de l'actualité de la tech, un prisme particulièrement pertinent et encore trop peu adopté pour analyser nos mondes numériques. Autre newsletter particulièrement riche pour avoir un recul critique sur l'actualité de la tech, Dans les algorithmes, une newsletter lancée le mois dernier et coordonnée par le journaliste et essayiste Hubert Guillot, qui s'est donné pour mission de visibiliser les enjeux politiques et sociaux derrière le déploiement des technologies. Des newsletters denses et souvent longues qui nous rappellent que pour saisir la complexité des enjeux liés au numérique, il est indispensable de prendre le temps et de renouer avec la lenteur.
Et voilà, et de résister à la tyrannie du retard dont Dominique Boulier nous parlait tout à l'heure. Alors, au-delà des sites et des newsletters, vous recommandez aussi des événements pour bien appréhender dans l'espace physique les enjeux du numérique.
Et oui, parce que si la lecture est indispensable pour bien s'informer sur ces sujets, il est aussi possible de se rendre à des événements pour échanger et rencontrer de vrais spécialistes du numérique. Il y a pour cela les rencontres organisées par la maison d'édition CEF, maison d'édition indépendante qui publie depuis des années les ouvrages les plus pointus sur les sujets du numérique et proposent régulièrement d'échanger avec leurs auteurs. Et si vous vous sentez d'humeur plus technocritique, il est également possible de se joindre aux événements organisés par des collectifs comme le Mouton Numérique ou la Quadrature du Net, qui propose par exemple ces prochaines semaines des rencontres avec des chercheurs pour mieux appréhender les dérives de la vidéosurveillance à la veille du lancement des Jeux Olympiques. Si le meilleur des mondes s'arrête la semaine prochaine, ces quelques recommandations permettront aux éditeurs, on l'espère, de continuer à s'informer de manière pertinente sur ces sujets si essentiels pour comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain.
Plein de bonnes adresses donc à retrouver sur le site et l'application Radio France pour le podcast de votre chronique, Juliette. Nous sommes toujours ce soir en compagnie de quatre invités pour analyser, décrypter la manière dont on peut justement rendre le numérique intelligible, transmettre les bonnes informations sur ces enjeux qui sont complexes, que ce soit dans le champ médiatique ou celui de la recherche ou encore le champ associatif. Nous sommes en compagnie de Dominique Boulier, qui est professeur des Université en sociologie du numérique à Sciences Po. Nous sommes avec Félix Tréguer, qui est chercheur et membre de la Quadrature du Net, avec Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama, et avec Maryse Broustaille, qui est professeure d'histoire géo au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, et donc formatrice académique en éducation aux médias et l'information à l'Académie de Versailles. Maryse, je vous ai vu prendre des notes lors de la chronique de Juliette. Justement, quelles sont les sources médiatiques que vous utilisez, vous, pour faire votre éducation aux médias et au numérique?
Déjà, je suis contente parce qu'il y en a quand même quelques-unes qu'on a en commun. Je pense à Anne Cordier, par exemple, chez Les Chercheurs, ou à Olivier Hertzscheid. Je pense aussi aux éditions CEF qu'on peut utiliser. Et nous, en fait, on a besoin vraiment d'avoir des journalistes qui vulgarisent la recherche parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller chercher, enfin, voilà, on n'a pas le temps de la recherche pour se mettre à jour et s'actualiser. Et donc, moi, je fais une veille assez régulière qui passe entre autres par les réseaux sociaux, par les newsletters. Donc, effectivement, j'ai pris plein de notes parce que ça m'intéressait beaucoup. Il y a quelques magazines qui ont été créés, lancés. Parfois, ils se sont arrêtés. Parfois, ils se sont relancés. Je sais que pour les plus jeunes, moi, j'aime bien Geek Junior, qui est sorti il y a quelques années, je crois, qui, je trouve, fait un travail autour de l'éducation aux médias et l'éducation numérique auprès des jeunes qui est assez intéressant, avec une newsletter sur la parentalité numérique. J'insiste un peu là-dessus, mais que je trouve vraiment bien quand on ne connaît pas forcément grand-chose. J'aime beaucoup aussi le travail des journalistes scientifiques quand ils essayent de vulgariser, je ne sais pas si c'est le juste mot, mais de transmettre en tout cas ce qu'ils ont compris. Par exemple, chez Epsilon, ils ont fait un numéro sur les deepfakes, les vidéos truquées, qui m'a beaucoup intéressée parce que moi, je vais utiliser ça avec les élèves après, et puis je peux l'utiliser en formation pour expliquer comment développer son esprit critique. Je vais voir du côté de Isabelle Kirika, de Numérama, j'écoute Le Meilleur des Mondes. Voilà, c'est vraiment, on a besoin de ces sources-là aussi pour nous, pour pouvoir nous former, nous actualiser et puis suivre, parce que ça n'arrête pas, de changer et d'innover sans arrêt, et c'est dur d'arriver à suivre tout en faisant autre chose à côté, l'enseignement, la formation.
D'où l'intérêt, effectivement, de la pratique journaliste, des journalistes, comme le disait Marie Turcan, spécialisés dans l'univers de la technologie, qui ne sont pas que des porte-paroles des nouveaux produits lancés par Apple, mais au contraire, qui parviennent à déposer, à analyser, justement, un filtre critique sur l'ensemble de ces problématiques. Félix Tréguin, on n'a pas encore parlé du monde politique, et pour autant, ça fait partie de vos missions aussi au sein de la Quadrature du Net, d'aller essayer de convaincre, de faire aussi de la pédagogie, de lutter sans doute aussi contre ce discours des GAFAM dont les lobbies sont très puissants à Bruxelles. À votre sens, quel est le niveau d'acculturation numérique des responsables politiques, que ce soit donc en France ou en Europe à Bruxelles ?
Moi, quand j'ai commencé à militer à la Quadrature du Net autour de 2009-2010, c'est vrai qu'il y avait encore une vraie inculture technique, y compris de la part des personnalités politiques qui étaient chargées de tel ou tel texte à l'Assemblée, par exemple. C'était le cas aussi au niveau du Parlement européen, bien souvent. Et c'est un argument qu'on pouvait utiliser, du coup, pour pointer l'incompétence, le manque de connaissances techniques et, du coup, les solutions réglementaires un petit peu mal fichues qui étaient proposées et attentatoires aux libertés, surtout. Je pense qu'il y a toujours un peu un problème. Je veux dire, c'est pas évident de faire sens, par exemple, dans la dernière loi sur la sécurité dans l'espace numérique, de faire sens des mesures.
La loi SREN.
La loi SREN, absolument. Ce joli acronyme. C'est pas toujours évident de faire sens des mesures techniques et des enjeux qui se cachent derrière le fait, par exemple, d'obliger tel ou tel navigateur à censurer certains sites, etc. Mais globalement, moi, je trouve que l'argument de la compétence technique est plus vraiment valable, en fait. Et les choses, elles se situent pas tant là. Et après, du côté de la Quadrature du Net, dans l'appréhension du champ politique, il y a un autre changement très conséquent, c'est une forme de polarisation. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, on arrivait à parler à de nombreux partis politiques. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Je pense que les crises sécuritaires qu'on a connues autour de 2015-2016 ont, là encore, opéré un moment de bascule à cet égard. Et on s'est retrouvé face à des personnalités politiques qui, par rapport à un discours ancré dans la défense des droits humains, allaient nous dire en fait, vous avez raison, mais c'est pas quelque chose que je peux assumer au plan politique. Et donc, en fait, je vais pas amender ou me prononcer contre telle ou telle mesure. Et donc, il y a un effet de referme. Le champ politique s'est refermé, en quelque sorte. Et notre capacité à l'influencer directement aussi, je dirais.
D'accord, donc c'est pas très rassurant.
Non.
C'est pas très rassurant.
Il y a eu des prises de décisions récentes, là, notamment avec l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie, qui est quand même un Rubicon qui a été franchi assez de manière...
Par les pouvoirs publics, on le rappelle. Hein.
Ouais, ils ont utilisé, même pas un état d'urgence, mais des circonstances exceptionnelles, un espèce de truc qui a été mis dans une décision il y a quasiment 100 ans. Pour en fait, c'est là où on s'est rendu compte que les pouvoirs publics pouvaient manipuler un petit peu le droit comme ils voulaient pour faire interdire ce genre de plateforme. Et là, pour le coup, ça a été très attentatoire aux libertés individuelles. Et je voulais utiliser, du coup, ma casquette journalistique pour dire que, à ce moment-là, c'est là où moi je me suis rendu compte que c'était difficile de faire comprendre au public les dérives actuelles, les risques qu'on prend, en fait, aujourd'hui, que ce soit quand TikTok est annulé ou quand il y a une fuite de données immense. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que ça vaut plus grand-chose, qu'en fait, le public est tellement noyé d'informations que quand il y a quelque chose de vraiment très très grave ou de vraiment vraiment qui pourrait basculer dans quelque chose qui ressemble à du totalitarisme, on n'arrive pas à alerter. Typiquement, la loi sécurité globale il y a deux ans, quand on l'a couverte, avec il y avait beaucoup de propositions qui étaient très attentatoires aux libertés individuelles, mais on voyait que ça débordait de partout et qu'en fait on n'arrivait quasiment plus à. Alors nous, on a fait des articles, beaucoup d'articles, mais vous voyez sur TikTok, je trouve qu'il y a eu une bonne couverture de certains médias, mais c'est quand même passé relativement inaperçu. Alors qu'il y a un an, le gouvernement voulait pouvoir bloquer Snapchat quand il y a eu les émeutes autour de la mort de Naël. C'est quelque chose que, il y a un moment, le gouvernement attend un peu que ça, de pouvoir bloquer des plateformes en cas d'émeute.
Alors il me semble qu'en l'espèce, justement, sur l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie, la Quadrature du Net a fait un recours au Conseil d'État. Voilà. Le Conseil d'État a été dans le sens, justement, de l'exécutif. Hein, c'est-à-dire que ce recours n'a pas été retenu.
On dit qu'il ne pouvait pas juger sur le référé d'urgence.
Exactement. Félix Reger, peut-être plus globalement, et pour poursuivre la question de Marie, c'est toujours cette même dialectique, que ce soit pour l'interdiction de TikTok, on va dire que c'est pour permettre une meilleure sécurité des gens, ou alors le déploiement des outils de vidéosurveillance. C'est quand même très dur de lutter contre cette idée qui est de dire que c'est pour notre intérêt, c'est pour la sécurité, que de toute façon, moi, j'ai rien à cacher, donc c'est pas grave si on me filme. J'imagine que c'est un discours que vous entendez depuis des années et des années, mais quelle réponse on peut apporter, puisque c'est notre sujet de la transmission de l'information, pour que ces arguments soient intelligibles, qu'ils soient bien compréhensibles?
Ouais. On parlait tout à l'heure un peu des discours propagandaires à l'endroit de l'innovation numérique. C'est ce qu'on appelle communément le technosolutionnisme. Et je pense qu'on est aussi baigné, en fait, depuis au moins 40 ans, mais c'est très prégnant depuis 20 ans, et depuis les attentats de 2001, je pense, d'un solutionnisme sécuritaire. Et en fait, cette difficulté à mobiliser l'opinion, à faire sentir les dangers, et à quel point, justement, peu à peu, loi après loi, mesure discrétionnaire après mesure discrétionnaire prise par l'exécutif, on passe, en fait, dans un régime qui est pas représentatif, qui n'est pas protecteur des droits humains, qui n'est pas respectueux de l'état de droit et qui se rapproche en fait d'un régime autoritaire. Et effectivement, c'est dur de faire sentir ça. Comment on le fait? Nous, c'est clairement quelque chose qui, une question qu'on se pose constamment dans le cadre de notre projet Technopolis, qui porte sur les nouvelles technologies de surveillance policière, comme la police prédictive, les drones ou la vidéosurveillance algorithmique. Un des enjeux pour nous, ça a été de montrer en fait comment concrètement ces technologies s'articulent à des pratiques policières violentes, brutales, et comment en fait elles atteignent les corps. Et je pense que c'est aussi en montrant les effets de pouvoir qui se cachent derrière ces technologies et leurs usages par les différentes formes de pouvoir qui traversent nos sociétés qu'on peut faire sentir en fait leur danger. Je pense que l'histoire est aussi évidemment, même si forcément les choses ne se répètent pas telles quelles, il y a des enseignements à tirer d'épisodes historiques passés et donc c'est surtout ces leviers-là qu'on essaye de tirer pour mobiliser et informer.
Dominique Boulier, on parlait tout à l'heure avec Félix Reger de ces textes aussi, de cette réglementation qui est parfois un peu complexe, il faut arriver et donc à la faire comprendre. Avec Marie Turcan, on parlait aussi du journalisme d'investigation pour enquêter justement dans le monde du numérique, dans la recherche, lorsque justement on a combien de ces chercheurs pendant toutes ces années dans ces émissions. Elle nous parlait aussi de la difficulté de l'explicabilité, c'est-à-dire que lorsqu'on a beau avoir accès et encore dans le meilleur des cas à des données sur les algorithmes, au fonctionnement des architectures numériques, c'est pas toujours simple d'arriver à les comprendre.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la situation ne s'est pas arrangée avec l'IA générative, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que l'intérêt, pour moi, de l'informatique, c'était qu'en général, on est obligé de décomposer tous les problèmes. C'est ça l'opération extraordinaire de Turing. En disant, on traite pas des problèmes généraux, on résout des problèmes en les décomposant en des procédures, etc. Donc, on s'oblige à expliciter les choses. Donc, tout ça, ça va très bien. C'est dans une logique scientifique qui peut fonctionner. Or, on est en train de vivre un moment où précisément ça se retourne d'une autre façon. C'est-à-dire que petit à petit, la décomposition des problèmes en une opération tellement minutieuse qui suppose des telles masses de données qu'il faut pondérer de façon tellement ultra rapide, etc., aboutit à quelque chose qui devient paradoxalement totalement opaque. Alors non seulement opaque pour le public, non seulement opaque pour les chercheurs, mais même pour les développeurs qui au bout d'un moment ne sont plus capables de rendre compte de la façon dont un système a abouti à tel type de décision ou à tel type d'orientation parce que il a révisé lui-même, puisque c'est de l'apprentissage automatique, il a révisé lui-même certaines des pondérations entre les paramètres qu'il gérait. Et alors là, on a un vrai problème. Alors il faut bien remarquer quand même que ça, c'est un souci qui vient pas seulement de chercheurs en sciences sociales qui n'y connaissent rien et qui ont un esprit critique, c'est aussi un souci des développeurs eux-mêmes de fournir une dimension d'explicabilité. Désormais, c'est un cahier des charges qu'ils se donnent, un certain nombre d'entre eux, pas tous justement, d'autres d'autres compagnies profitent très très bien de cette opacité-là et vous disent circuler, il n'y a rien à voir, alors que d'autres, effectivement, se disent qu'on ne doit plus s'autoriser à commencer à développer encore des boîtes noires et qu'un des impératifs éthiques des développeurs, ça doit être justement de rendre tout cela explicable. Mmh. Alors certains vous disent, non, arrêtez de raconter des bêtises, c'est pas possible avec des milliards de paramètres, etc. Eh ben peut-être que justement, c'est pour ça que les large language models sont une impasse de ce point de vue-là, aussi. Pour d'autres raisons, mais aussi. Donc l'objectif d'explicabilité, c'est aussi une responsabilité des ingénieurs pour eux-mêmes déjà, pour savoir ce qu'ils font, et ils sont responsables de ce que leur système va faire, et puis ensuite de toute la chaîne de ceux qui les commentent ou qui les utilisent. Et si on veut avoir une démarche démocratique et discuter de ce qu'on peut choisir et rendre compte de tout cela, eh bien effectivement, il va falloir que l'IA elle-même évolue vers plus d'explicabilité, ça c'est incontestable.
Alors si je reprends justement les termes de Dominique Boulier, Maryse Broustaille, j'ai entendu boîte noire, j'ai entendu opacité, comment on fait justement pour éclairer les jeunes générations avec lesquelles vous travaillez, les enseignants aussi. Quelles sont vos solutions ?
Alors, c'est pas très simple. Moi, j'essaie de travailler, de faire de pédagogie avec des métaphores. Donc, la boîte noire, pour moi, ça va être les ingrédients qu'on va utiliser, les algorithmes, ça va être la recette. Mmh. Et puis, avec des ingrédients qu'on ne connaît pas, donc là, les données, et avec la recette, les algorithmes donc, qu'on ne connaît pas forcément, on a un contenu que peut nous fournir un outil d'IAG, d'intelligence artificielle, qui va arriver, qui peut être très beau, mais voilà, on peut se questionner si j'ai ni la recette ni les ingrédients, même si mon contenu, mon plat à la fin est très beau, d'où il sort en fait, quels sont, voilà. Donc c'est pas simple parce que même moi, il y a des termes que j'entends et je me dis, même le mot algorithme par exemple qui maintenant m'est familier, j'ai mis des années à comprendre en quoi il était important sans forcément être une programmeuse, une développeuse ou une codeuse. Et je pense qu'on a un vrai travail de pédagogie à faire aussi auprès des enseignants sur expliquer les mots et se dire que travailler sur le numérique, c'est pas que la science, c'est aussi les humanités, parce que ça c'est aussi un peu une guerre, je sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, entre humanité numérique et science numérique, voilà, il y a toujours toute cette réflexion, à mon avis, il faut travailler ensemble. Il y a un vrai travail de pédagogie sur expliquer les choses et puis prendre du temps, parce qu'en fait, ces outils qui s'imposent dans l'éducation comme dans la société, il faut qu'on puisse les expliquer, je pense qu'il faut les pratiquer aussi pour les comprendre, à mon avis, il faut, sans forcément s'immerger à fond dedans, mais comprendre un peu comment ça fonctionne par la pratique.
Ça, j'imagine que c'est un peu le leitmotiv aussi de votre enseignement, c'est-à-dire mettre les mains dans la machine, essayer le plus possible de les utiliser, d'être dans la pratique, d'être dans l'usage pour comprendre comment elles fonctionnent.
Alors, en général, je commence plutôt par l'inverse, c'est-à-dire l'analyse de ce que peuvent produire les outils. Mmh. Moi, par exemple, je parlais tout à l'heure des deepfakes ou des images, je vais travailler dessus avec les élèves pour analyser et se poser des questions, et d'où vient la source, et en fait, quel est le contexte de ce qui a été produit. Et une fois qu'on a analysé, je passe après à la phase plutôt, est-ce qu'on a le temps déjà de passer à la production dans ma matière, moi, parce que je suis quand même professeur d'histoire géographie, et donc du coup le fait d'aller dans le dur, c'est pas tellement ma matière, mais je trouve ça intéressant pour le coup.
Vous dites, et on l'a peut-être senti, si on a le temps.
Ouais.
Vous en manquez de temps?
Ah définitivement. Là, on a parlé de temps depuis le début de l'émission, le temps long qui est nécessaire par rapport à une urgence, par rapport à cette, je sais plus quel était le mot, mais le rythme, là, qui est la cadence, le réchauffement médiatique. Mmh. Oui, il nous faut du temps pour comprendre, il nous faut du temps pour intégrer, pour voir comment on peut l'adapter à notre enseignement, comment on peut accompagner les élèves à des usages raisonnés de ces outils, parce que aussi bien, enfin, je veux dire, l'emballement, il est aussi chez les jeunes, hein, il y a des nouveaux outils, ils ont envie de les utiliser et on se plonge dedans et on se pose pas forcément des questions. Oui. Il nous faut du temps pour intégrer tout ça, bien sûr.
Alors le temps aussi a ses règles, son imposition, ses préceptes, dans le meilleur des mondes également, car on approche de la fin de cette émission. Alors on va pas terminer sans essayer peut-être d'entrevoir une solution collective. Elle vient évidemment pas de moi, mais du low-tech que l'on entend beaucoup. On a parlé même au début de cette émission de la volonté de décélérer, même si ça devrait indiquer justement un changement de paradigme, casser la viralité, la propagation, pour reprendre justement les termes de Dominique Boulier, aller vers une sorte d'éloge de la lenteur. Est-ce que c'est ça, c'est vers ça qu'il faut qu'on se dirige, Marie Turcan?
Alors, je pense que on a quand même des espoirs, alors pas forcément sur le ralentissement, parce que les pratiques sont telles que je pense que des jeunes personnes qui utilisent leur téléphone, on va pas réussir à leur faire poser leur téléphone pendant toute la journée et les mettre dans des boîtes noires. Mais par contre, il y a quand même au-delà du journalisme, typiquement, il y a des influenceurs, influenceuses qui aujourd'hui font des travaux de très bonne qualité de vulgarisation, d'aide à la compréhension. Il y a aussi pas mal de journalistes qui font des interventions dans des écoles. On travaille aussi où je l'ai fait récemment et je me suis rendu compte que je venais parler du métier de journaliste tout bêtement et puis j'ai fini par parler d'une enquête que j'ai fait sur un youtubeur et là soudain mais vraiment 10 élèves devant moi qui me disent ben moi je joue à Fortnite et il y a un mec qui m'a demandé ça un jour, moi celui-là il m'a demandé mon Snapchat mais je lui ai pas donné et tout ça, et là c'est là où et en plus c'était donc mon amie, enfin j'avais une amie qui était prof donc, et elle me disait jamais ils ont osé me poser autant de questions à moi parce que je suis leur prof au quotidien. Et du coup je pense que le fait d'avoir aussi des intervenants extérieurs, intervenants, intervenantes qui ont ce côté très précis peut aussi permettre d'apporter une pédagogie différente et une écoute et c'est des petites initiatives comme ça qui vont permettre de faire les choses et je pense qu'en effet l'éducation aux parents peut être vraiment bénéfique.
Et la pédagogie elle peut aussi se faire en lisant de la science-fiction et ça c'est Marcus Dupont-Bénard qui nous en parlait. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François.
La science-fiction pour comprendre la révolution technologique.
Et oui, parce que la science-fiction, c'est un outil démocratique dont on a besoin. Pour vous le prouver, j'ai une affirmation quasi contre-intuitive. L'ASF est parfaitement ancrée dans le présent. Elle nous dit « Stop, on s'arrête 2 minutes et on prend du recul, on regarde le monde que nous sommes en train de créer. » C'est un refus de l'inéluctable. En SF, l'avenir n'est plus un progrès en ligne droite dont on serait les passagers passifs. Et ça, c'est très politique. En nous permettant d'accéder à l'altérité, à l'ailleurs, à l'autrement, cet imaginaire est aussi un outil de premier plan contre la haine et le repli sur soi, et ça marche avec presque toutes les œuvres de SF. Prenons l'un des grands succès de l'année, au hasard, la série Netflix Le Problème à 3 corps. On y trouve un casque de réalité virtuelle au fonctionnement incompréhensible et une espèce extraterrestre incompréhensible. Comme le livre dont on allait adapter, elle nous pousse dans nos retranchements, comme adore le faire la SF, en nous confrontant à l'inconnu.
Ça nous observe et ça nous écoute.
Will, on sait même pas ce qu'ils sont. Et peut-être qu'on peut pas le savoir.
Préparez-vous à vivre un truc qui sort de l'ordinaire.
En fait, je crois que l'ASF est un road trip, c'est un voyage. Prenons l'œuvre d'une écrivaine française, Émilie Kerbalek. Son roman, Les Champs de Nouying, démarre avec une découverte, des sons émanant d'une autre planète et qui ressemblent étrangement à des chants de baleines. Une expédition spatiale est lancée et nous, en tant que lecteurs ou lectrices, on pense partir explorer cette planète. Mais non, Émilie Kerbalek nous raconte surtout le voyage au sein de ce vaisseau. À l'image de tout le genre SF, c'est une belle et profonde quête humaniste vers soi et surtout vers les autres.
La science-fiction est parfois sombre, Marcus, soit-il. Lire plutôt de la dystopie ou de l'utopie?
En fait, quand on dit qu'on en a marre des dystopies, ça signifie pas qu'il ne faut plus en écrire ni qu'elles sont invalides. Au contraire, c'est un constat plutôt sain. Encore heureux qu'on en a marre des dystopies. Elles sont là pour ça. Elles nous dépriment un peu, je vais pas dire le contraire, mais elles nous aident aussi à refuser. Prenons par exemple la trilogie de la transparence numérique de Benjamin Fogel. J'en ai déjà parlé dans une précédente
émission. C'est vrai, Marcus.
Tome 3, mais parlons maintenant du tome 2. Le silence selon Manon, qui nous montre un futur où l'omniprésence numérique avait transformé la haine en ligne en institution. Mais l'auteur contrebalance sans cesse avec notre humanité. Dans cette tension narrative, il y a une étincelle qui pousse à la mobilisation. Une levée de boucliers contre, en l'occurrence, le masculinisme et le cyberharcèlement. Alors, bien sûr, dans la production récente, on trouve de plus en plus d'espoir, de notions d'espoir. Becky Chambers, là encore, j'en ai beaucoup parlé dans cette émission, est la fer de lance de cette SF positive, optimiste, basée sur le vivre ensemble et le respect de la nature. Mais en fait, c'est cette cohabitation entre des futurs enviables et non enviables qui est nécessaire. Si on veut parler de nouvelles technologies, on devrait toujours parler en termes de futurs possibles. Ils sont nombreux, ils dépendent en grande partie de nous. Alors même avec un smartphone en main, vous avez le choix et c'est l'un des meilleurs enseignements de la SF.
Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénard pour votre amour renouvelé à la science-fiction. Puis c'était inédit, puis car Marie Turcan a pu voir une de vos chroniques en direct, puisque pour cette avant-dernière, vous étiez tous les deux présents dans ce studio. Je vous le rappelle donc, la semaine prochaine, c'est la dernière du Meilleur des Mondes. Si vous voulez nous laisser un message vocal, pourquoi pas, allez sur le site de l'émission, vous trouverez une adresse mail et vous pourrez enregistrer votre voix. Promis, Félix Reger me regarde d'un œil suspicieux, on n'analysera pas la biométrie des voix, on pourra supprimer ça instantanément, mais on aura peut-être le loisir de diffuser vos messages la semaine prochaine. En tout cas, encore merci pour tous les messages de soutien que vous nous avez envoyés durant ces derniers jours. Merci à vous quatre aussi pour votre engagement et votre regard pertinent sur ce sujet de la transmission. Je remercie également à la réalisation ce soir, comme depuis 2 ans, Perré Legras, accompagné par Alex Dang, à la vidéo, car cette émission est filmée et diffusée ensuite sur la chaîne YouTube de France Culture, Vincent René, à la préparation comme d'habitude, Juliette Deveau, accompagnée par notre notre stagiaire Lodine Storelli, qui était elle-même accompagnée par un autre stagiaire de seconde cette fois-ci. Il s'appelle Gabriel Rouillac. Il sera également là la semaine prochaine. Le meilleur des mondes continue, encore une fois, encore pour une semaine. Merci d'être avec nous jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine.